sur France Inter.
Ce soir, dernière émission de cette série, cette semaine entière, consacrée à un texte qui a été publié en 1978, qui est signé de Robert Linhart et qui s'intitule « L'établi ». Ce texte a traversé le temps. Il nous parle encore très profondément. Pourquoi ? Parce qu'il parle de la classe ouvrière, dont on parle aujourd'hui très peu, parce qu'il parle de la dignité d'être ouvrier, encore aujourd'hui fin 2016, parce qu'il parle de la possibilité de l'insurrection, de la conscience qui est propre à chacun d'entre nous, quelle que soit la classe sociale à laquelle nous appartenons. Ce soir, donc, nous allons entendre pour la dernière fois, grâce à la voix de Samy Frey, la dernière partie de ce texte de Robert Linhart, L'établi. Et puis, vers 20h30, nous aurons la chance de conclure cette série grâce à Robert Linhart qui, 40 ans après, a accepté de parler de l'établi. L'établi, c'est l'intellectuel qui a décidé d'aller partir en usine pour pouvoir partager et vivre la vie de l'ouvrier. Mais l'établi, c'est aussi, eh bien, ce périmètre de liberté et de dignité que chaque ouvrier, grâce à son établi, dans cette usine où on travaille à la chaîne, eh bien, se conserve avec ses instruments à lui et sa liberté et son indépendance à lui. Cinquième et dernière émission de l'heure bleue, Samy Frey, l'établi.
Le sentiment du monde et l'établi. Un matin, aussi brusquement que j'avais reçu mon ordre d'exil, je me vis signifier mon retour à Choisy. T'as une demi-heure pour être à l'usine, tiens, voilà ton papier. Lestière, rue, l'avenue de Choisy sous une pluie fine, déserte à 7h matinale. La grande porte de l'usine. Ça y est, je vais retrouver la multitude familière des ateliers. Le gardien jette un coup d'œil morose sur mon laissez-passer, me fait entrer. Je pense que, dans quelques instants, je serai parmi les camarades. Pas question. L'agent du secteur Junot me met à la disposition du contremaître Gravier, qui me met à la disposition du régleur d'Anglois. Toujours la cascade hiérarchique. Les suis-moi, les attends-là, les mettez-le là. Quand on met un ouvrier à une place, on ne manque jamais à cette occasion de le remettre à sa place. C'est une coutume qui s'applique à tout le monde, qui fait partie du mode de fonctionnement normal de la maison. Dans mon cas, cependant, il me semble qu'ils sont spécialement désagréable. Les ordres sont de véritables aboiements. La grève me vaut sans doute ce traitement renforcé. Je saurai bientôt qu'ils connaissent maintenant ma qualité d'établi. Mon nouveau poste, donc. Je suis affecté au transport des caisses dans la cour de l'usine. Ce transport des caisses se fait sur des chariots de fer, bas, lourds, montés sur des petites roues. Ils adhèrent fortement à l'asphalte de la cour et, quand on les déplace, gémissent et grondent. J'aurai donc 250 caisses environ à transporter chaque jour sur ces chariots. À l'arrivée, je dois entasser les chariots débarrassés de leur chargement. Je les ramènerai à leur point de départ, la sortie de l'atelier d'emboutissage 5 par 5. 150 caisses à l'aller, 3 fois 5 chariots de fer au retour. C'est le plus dur. Va y en avoir pour plus de 100 kilos à chaque voyage. Tout cela dans une cour ouverte à tous les vents, à toutes les pluies, souvent glissantes, encombrée de camions, de remorques, de containers, et avec pour seule compagnie permanente, presque, le régleur d'Anglois me pressant d'aller plus vite. Non, pas question d'être à nouveau mêlé aux camarades des ateliers. Après la contention, les travaux forcés. Je prends un chariot, rouge sale, cliquetis de ferraille. La fonte glacée me brûle les mains. Je place la caisse sur le chariot, un peu maladroit, cherchant la prise la plus appropriée sur ce bizarre montage de morceaux de tôle tour à piécer et je démarre. Arc-bouté contre mon chargement. Contact froid de la tôle crue. Faire attention à ne pas se couper. Les bords sont nets et menaçants. Je m'arrête et reviens demander des gants. D'Anglois, il n'y en a pas, démerde-toi. Puis goguenard, de toute façon, t'es là pour en chier. Rien à répondre. La brusque montée de haine que provoque l'arbitraire, la bêtise arrogante, sûre d'elle, j'avais un peu oublié. Ça fait du bien, en un sens. Ces petites injustices inattendues qui claquent absurdement sans prévenir. La combativité se réveille. On serre les dents. On attend la revanche. Un vent glacé. La pluie en rafale qui perce la veste légère de mon bleu de travail. J'ai encore la tenue de mes allers-retours somnolents dans l'entrepôt de la rue nationale. Dans cette cour, je me sens comme nu, transpercé, trempé, la pluie, puis au bout d'une demi-heure, la sueur. Faudra prévoir un blouson, s'équiper, des gants aussi. Demain, aujourd'hui, ampoule et engelure. Essayez donc d'oublier la lutte des classes quand vous êtes ouvrier d'usine. Le patron, lui, ne l'oublie pas, et vous pouvez compter sur lui pour vous en rappeler l'existence. Quand j'avais compté mes 152 chevaux et que ma journée d'homme-chaîne terminée, je rentrais m'affaler chez moi comme une masse. Je n'avais plus la force de penser grand-chose. Mais au moins, je donnais un contenu précis au concept de plus-value.
L'heure bleue, Laure Adler, sur France Inter.
Ils étaient usés à 15 ans, ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents, entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être, 15 heures par jour, le corps on laisse. Laisse au visage un teint de cendre, oui notre monsieur, oui notre bon maître.
Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
On peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là à dire qu'ils ont vécu, lorsque l'on part aussi vaincu. C'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux de quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui notre bon maître, oui notre monsieur.
Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Si par malheur ils survivaient, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient des lèvres, qu'ils aillent ouvrir aux champs d'horreur leurs 20 ans qu'ils n'avaient plus naître. Et ils mourraient à pleine peur, tout miséreux, oui notre bon maître. Couvert de prêtres, oui notre monsieur. Demandez-vous belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? 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 Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
La rencontre d'Ali joue un rôle décisif dans la transformation de mon état d'esprit. Un choc, mais si complexe que, même aujourd'hui, je ne pourrais le définir avec exactitude alors que près de 10 ans ont passé. Une bouffée d'air du grand large, la vision soudaine de masses tellement plus lointaines et plus obscures, et aussi la découverte de quelque chose de fraternel et de tragique à la fois. Mais les mots, tout à coup, me semblent faibles et impropres. Je n'ai connu Ali qu'un seul jour, une journée complète de travail, de 7h du matin à 5h du soir. Et quoique je ne l'ai jamais revu par la suite, il m'arrive souvent de penser à lui. Il est grand, très maigre, brun de peau. Il me semble le connaître de vue pour avoir remarqué, en le croisant dans les ateliers ou les vestiaires, le tatouage bleu en forme de poing qu'il porte au bas du front entre les sourcils et qui souligne son air farouche. Dès que j'entre dans le bâtiment, il me tend une caisse qu'il porte de ses deux bras, largement écartés, en un mouvement régulier et précis, toujours identique. Puis, il reprend aussitôt sa pose, immobile, droit, au milieu de l'entrepôt, les bras croisés, le regard lointain, comme s'il montait la garde au bord de quelque campement du désert. J'ai plusieurs fois un mouvement pour lui parler, mais je suis trop bousculé à courir aux trois coins de la cour avec mes carrosseries brinque-ballantes et mes chariots de fonte. Et comme lui-même paraît absent, la manœuvre se répète en silence. 8h15. Pause de 10 minutes pour le casse-croûte. Je reviens m'abriter dans l'entrepôt de stockage, glacial mais protégé de la pluie fine qui continue de frapper la cour en petites bourrasques. Je m'adosse à une carrosserie et sors mon sandwich. L'homme au tatouage ne bouge pas, toujours debout, indifférent à la pose. Elle ne paraît pas le concerner. Je m'approche et lui propose de partager puisqu'il paraît ne rien avoir à porter à manger. Il jette un coup d'œil sur le pain d'où dépasse une tranche de jambon et secoue la tête en signe de refus. Je ne mange pas de cochon. Puis d'une voix grave, comme s'il ne s'adressait pas directement à moi, mais poursuivait sa rêverie. Je suis fils de marabout. Mon père est un marabout très important, un grand religieux. J'ai beaucoup étudié l'arabe, la grammaire arabe. C'est très important. Un silence. Puis il me fixe soudain du regard, surprise de ses deux yeux étincelants d'un noir intense, et se lance dans un long discours dont j'ai du mal à saisir complètement le sens parce que son français est heurté d'un accent rugueux et qu'il me paraît employer souvent un mot pour un autre, et parfois même des mots inconnus. Je comprends quand même qu'il s'appelle Ali, qu'il est marocain, d'une famille très religieuse, qu'il a fait des études coraniques, que son père est mort, que les siens vivent dans la misère depuis longtemps. Et là, je comprends à nouveau. Et ce qu'il me dit me fait une forte impression. La langue arabe est une très grande langue. Ce sont les Arabes qui ont inventé la grammaire. Ils ont aussi inventé les mathématiques et les chiffres pour le monde entier. Ils ont inventé beaucoup de choses. Il a élevé la voix, et sa fierté résonne étrangement dans l'entrepôt métallique qui renvoie l'écho. Ému, je commence une réponse un peu solennelle, cherchant mes mots pour dire en phrases simples que j'ai un grand respect pour la culture arabe. Et dans le temps que j'entreprends cette réponse, il me semble que je nous vois de loin, seul, debout, face à face, dans ce bâtiment vaste et vide, où il n'y a que des piles de caisses, ferrailles grises. Armature stupide de voitures à venir. Moi avec ma veste de bleu de travail élimée, déchirée par les tôles aiguës qui accrochent. Lui flottant dans une combinaison de manœuvres trop large pour sa maigreur, trop courte pour sa haute taille. Et ce dialogue solennel, irréel, de plénipotentiaire de culture lointaine, de langue lointaine, de façon d'être lointaine. Et rien de cela ne me semble ridicule ni déplacé. Mais au contraire grave et important, Nous n'aurions jamais dû nous rencontrer. Et le hasard nous avait mis face à face. Le hasard, pas tout à fait. La grève et ses suites plus ou moins directes. Et j'avais en même temps le sentiment d'un allié très proche. Le gréviste solitaire et buté. L'enfant au chien noir, le souffre-douleur de Danglois. Un frère obscur, un instant surgi de la nuit, qui allait le happer de nouveau. Effectivement, on le baladait de poste en poste, de brimade en brimade, et dès le lendemain, il avait disparu. J'eus ensuite des nouvelles intermittentes de lui par des gens qui le connaissaient de vue. Ah oui, le grand Marocain avec un tatouage bleu sur le front, celui qui ne parle presque jamais et qui sort encore à 5 heures. Attends voir. Je crois bien que je l'ai vu à trimballer des bacs en peinture. Finalement, j'appris qu'on l'avait stabilisé à l'usine de Javel, au nettoyage des chiottes. Dans 15 jours, les vacances. Ils savent qu'il est trop tard pour que se déclenche une grève. Ils savent surtout que les immigrés n'ont plus qu'une chose en tête. Se débrouiller pour passer les congés au pays. Trouver l'argent, trouver le billet pas cher. L'avion spécial, le bateau, la troisième classe. Le tout compris sur le pont ou à 150 en saut de puce aérien Marseille-Oran. C'est la cohue dans les agences de voyage, les compagnies maritimes, les réservations d'avions. L'usine est saisi d'une fièvre de voyage. Au casse-croûte à la cantine, c'est la bourse, un aller-retour sur Batna à temps, un Paris-Alger moins cher, un billet de groupe Marseille-Alger, mais il faut partir à 10 en même temps. Et pour la Yougoslavie, une affaire en or, mais départ le 27 juillet, 3 jours avant la fermeture de l'usine. Ceux qui savent qu'ils ne pourront pas partir parce qu'ils n'ont pas le sou, ou personne à voir au pays, errent comme des âmes mortes, indifférents à tout. Meurtris par cette agitation qui les exclut involontairement. Ceux qui essaieront de partir ne pensent qu'à ça. La tête, elle est déjà là-bas, dans le village kabyle ou croate, dans les faubourgs d'Alger ou de Barcelone, dans les petites fermes de Trasos Montes ou dans les oliveraies d'Alentejo. La tête, elle est déjà parmi les pêcheurs et les vignerons, au milieu des troupeaux de moutons ou dans les échoppes de cordonniers, sur la place du village au moment des palabres, quand le soleil se couche doucement derrière les collines. La tête, elle est avec les parents, la femme, les enfants, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les cousins, les amis, là-bas. Il n'y a plus que le corps, ici, à la disposition de Citroën, mais ça lui suffit à Citroën. Le corps, tant mieux même. Si la tête est partie, on va en profiter. On va en tirer encore un peu plus du corps. C'est le moment. Rationalisation. Tout ce que Citroën aura réussi à gratter, point de vue productivité, dans cette deuxième quinzaine de juillet, ce sera autant de gagner pour le redémarrage fin août, début septembre. Dès le premier jour de la rentrée, la production normale sera, bien sûr, le point le plus haut enregistré à la fin du mois de juillet. Autre raison. D'ici un an, deux ou plus, Choisy fermera définitivement ses portes. C'est officiel. Citroën vend le terrain, fait raser les bâtiments. Il y aura des tours d'habitation, belle opération immobilière au prix du mètre carré à Paris. On déménagera le matériel et on répartira la production sur d'autres usines plus modernes, surtout en grande banlieue, là où le terrain est moins cher. Le personnel sera fractionné et muté. Un peu partout, ceux qui ne voudront pas de leur nouvelle affectation pourront s'en aller, et on peut compter sur la direction pour soigner tous les gêneurs, les syndicalistes et les fortes têtes. Les postes perdus à l'autre bout de la France, ça ne manque pas. Mercredi 30 juillet 1969. Fin de l'après-midi. Plus que quelques minutes de travail et on arrête pour un mois. On me convoque au bureau central. Laissez-passer, souterrain, bâtiment administratif de l'autre côté de l'avenue de Choisy, bureau, papier. Je suis licencié avec préavis qu'on me dispense d'effectuer. Compression de personnel. Je refuse de signer le solde de tout compte, comme vous voudrez, ça n'a aucune importance. m'empare de l'enveloppe, court voir Klatzmann, le délégué CGT, il travaille de ce côté-ci du boulevard, à l'outillage, un poste écarté où la direction l'a envoyé pour qu'il ne puisse rien faire en dehors des heures de délégation. En cas d'urgence, il faut venir l'y trouver. Klatzmann lit tous les papiers, me fait préciser quelques détails. Il n'y a rien à faire sur le plan légal. Citroën a respecté les formes. Quant à essayer une action, un tract, l'usine est en train de fermer ses portes pour un mois. Klatzmann a raison. Ils ont bien joué. Rien à faire. J'aurais préféré un licenciement plus épique. Mais la vague de fond se prépare. Elle montera de toute façon. Et après celle-là, il y en aura d'autres. Je remercie Klatzmann. On se reverra. Je repars dire au revoir aux camarades de l'atelier, trop tard. L'usine est fermée depuis quelques minutes déjà. Tout le monde s'est rué vers la sortie. Les vestiaires se sont vidés en un clin d'œil, un mois au loin. Vite, vite. Maintenant, le silence. Les derniers ouvriers s'éloignent, tournant au coin du boulevard. Plus personne. Je la regarde, l'usine. Vue de la rue, elle a l'air inoffensive, avec ses bâtiments gris de taille moyenne, fondus dans le paysage. Des filles passent en robe légère. Le soleil tape dur. Les couleurs. Les vacances. J'allume une cigarette. Je vais vers le café des sports, à pas lents.
Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez France Inter, vous écoutez la semaine spéciale de L'Heure Bleue consacrée à Robert Linhart, auteur de l'établi, Robert Linhart qui a accepté de conclure, plutôt non pas comme une conclusion d'ailleurs, mais plutôt comme un épilogue.
Ses mains bonnes à tout, même à tenir des armes dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien, ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes, où tu veux aborder, et pour t'en empêcher les mains de l'oppression. Regarde-la gémir sur la gueule des gens avec les yeux fardés d'horaires et de rêves. Regarde-la se taire aux gorges du printemps avec les mains trahies par la faim qui se lève. Ses yeux qui te regardent, et la nuit, et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes, et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Regarde-la pointer son sourire indécent sur la censure apprise et qui va à la messe. Regarde-la jouir dans ce jouet d'enfant et qui tue des fantômes en perdant ta ta jeunesse. Ces lois qui t'embarrassent au point de les nier dans les couloirs glacés de la nuit conseillère et l'amour qui se lève à l'université et qui t'envahira lorsque tu casseras les lois de l'oppression. Regarde la flâner dans l'œil de tes copains, sous le couvert joyeux de soleil fraternel. Regarde la glisser peu à peu dans leurs mains, qui formeront des points dès qu'ils auront atteint l'âge de l'oppression. Ces yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braqués sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes, et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Ces yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braqués sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes. Et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux.
C'est la dernière émission de notre série, avec vous Robert Linhart, et je vous remercie encore infiniment d'avoir accepté d'une part que nous puissions faire l'adaptation de votre texte, et d'autre part d'être venu en studio pour pouvoir non pas peut-être conclure, mais peut-être essayer de parler de la profondeur de ce texte que vous avez écrit en 1978. Nous venons d'entendre la dernière lecture par Samy Frey. Peut-être une des clés de compréhension de votre acceptation, Robert Linhart, par les autres ouvriers, quand vous êtes rentré dans cette usine, c'est qu'après plusieurs semaines, vous avez ourdi, coordonné, préparé cette grève. Mais cette grève, quand on lit le texte aujourd'hui, on se dit que elle est en quelque sorte naturelle, que tous les ouvriers l'attendaient, cette grève.
Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a une forme de mépris de Citroën vis-à-vis de ses ouvriers qui est insupportable quand on y pense. C'était une grève contre la récupération, c'est-à-dire contre le fait de nous obliger à faire des heures qui ne seraient pas payées, soi-disant pour rembourser l'usine de l'avance qu'elle avait faite en 68. Bon, s'ils avaient fait une avance, c'est qu'ils avaient la trouille. Il n'y a pas d'autre raison. Donc, il n'y a aucune raison, il n'y avait aucune raison d'accepter qu'ils se remboursent comme ça, sur notre dos. On a donc fait des tracts dans toutes les langues, tout ça, bon.
Est-ce que vous dites dans le livre, est-ce que vous nous permettez de comprendre aussi, dans l'établi, parce qu'il y a des choses que vous écrivez, puis il y a des choses que nous, lecteurs, nous pensons parce que nous vous lisons. C'est pour ça que ce texte, je pense, est si important aujourd'hui encore, et qu'il revêt une sorte d'aura de réflexion politique dans le sens le plus essentiel du terme. C'est que une grève, c'est évidemment pour s'opposer aussi au patronat, mais c'est aussi pour conserver sa dignité d'être humain.
Absolument. Dans les tracts, on mettait le patronat veut nous briser. C'est notre dignité qui est en cause.
D'un côté, il y a les ouvriers, et de l'autre, il y a ceux qui surveillent les ouvriers, qui sont mieux payés que les ouvriers.
Oui. Les contremaîtres, les agents de secteur, tout ça est une hiérarchie très maison. Et en effet, ce sont des gens qui sont grassement payés.
Et qui parlent mal aux ouvriers.
Tout à fait, oui. Absolument.
Et vous qui étiez arrivé avec des armes théoriques dans cet univers qui n'était pas le vôtre et qui n'était pas destiné à être le vôtre, l'usine, est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir, avec votre bagage intellectuel, quelque chose de plus ou de moins que les ouvriers qui détenaient, par leur savoir technique, quelque chose qui arrivait à leur faire maîtriser la chaîne?
Oui, enfin, par rapport à la chaîne, j'étais plutôt démuni, puisque la chaîne m'a rejeté, finalement. Et que j'ai eu toute une série de petits boulots annexes. Donc, par rapport à un vrai ouvrier, si je peux dire, je n'étais pas grand-chose.
À partir de quand, Robert Linhart, avez-vous compris que vous pourriez essayer de faire le maximum, mais que ce maximum, c'était peut-être pas ça dont vous rêviez, que c'était moins que, justement, faire la lutte des classes, où votre présence seule dans cette usine, c'était faire la lutte des classes?
Ma présence dans cette usine, oui, enfin à l'époque, j'imaginais que c'était pas pour témoigner en tout cas. Je n'imaginais pas faire un livre, mais c'était pour me battre et pour inciter les ouvriers à se battre.
Vous pouvez, parce que manifestement dans votre mémoire, les choses sont encore très 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 présentes, vous pourriez restituer les odeurs de l'usine?
Oh oui, sûrement, oui. Une odeur de fer brûlé, de sueur, et le bruit aussi, le bruit des presses, de la chaîne, des engrenages.
Les lumières aussi?
Absolument, les lumières, oui, tout.
Quels étaient vos horaires?
Mes horaires, c'était... J'étais à la normale, comme on disait. C'est-à-dire que j'embauchais à 8h du matin et je terminais vers 6h du soir.
Et que faisiez-vous à la sortie de l'usine?
C'est-à-dire qu'il y avait le café des sports où je retrouvais des copains. Autrement, je rentrais chez moi.
À partir de quand êtes-vous devenu un ouvrier?
Jamais, je crois. Malheureusement. Enfin, malheureusement. Non, je crois que j'ai toujours gardé une distance par rapport à mon rôle.
Simone Veil, dans La Condition ouvrière, quand elle raconte ses journées d'usine et quand elle explique que le soir, elle rentre dans sa petite chambre pour essayer de récupérer ses forces, pour pouvoir recommencer le lendemain matin, elle dit qu'elle n'arrive pas à dormir, qu'elle a des migraines, qu'elle est épuisée, qu'elle est tellement fatiguée qu'elle ne peut pas, justement, se reposer pour user sa force de travail le lendemain et recommencer. Est-ce que vous, c'était la même chose?
Oui.
Mais en sortant de l'usine, toujours l'usine dans la tête et dans le corps?
Oui, absolument, oui. On ne s'en débarrasse pas facilement de l'usine. Même maintenant, un certain nombre d'années après, j'en rêve. Il m'arrive d'en rêver.
Et vous rêvez de quoi?
Ben, la chaîne, que la chaîne va trop vite, que j'arrive pas à suivre, etc.
L'heure bleue, Laure Adler, sur France Inter.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, nay, 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 nay. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker, we kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? He nay, 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 nay. I'm ready, my lord.
Au moment où, dans votre livre, Robert Linhart, vous évoquez cette grève, vous nous expliquez à nous lecteurs que, au début, la grève a entraîné la majorité des ouvriers de manière quasi naturelle et évidente. Et puis, les jours suivants, comme souvent dans les grèves, ça a été plus compliqué, mais ça a continué. Et ça a continué d'une manière quelquefois qui n'était pas bruyante, à bas bruit. Vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé, comment il y avait des ouvriers qui faisaient grève tout en disant qu'ils faisaient pas grève, parce que c'était évident qu'ils faisaient grève.
Oui, enfin bon, il y a différentes façons de faire grève. On peut aussi saboter la chaîne. Il faut qu'un certain nombre d'ouvriers quittent la chaîne pour qu'elle s'arrête. Donc si progressivement, il y en a de moins en moins qui la quittent, il vient un moment où les chefs arrivent en remplaçant des ouvriers qui sont partis, à la faire repartir. C'est ce qui s'est passé.
C'est pas la grève qui a fait que vous avez été mis à la porte de l'usine?
Non, non. Enfin, pas sûr.
En fait, il y a mystère encore aujourd'hui.
Oui. Comment l'ont-ils su que j'étais établi?
Dénonciation? En tout cas, pas des
oui.
camarades?
Non, pas des camarades, non. Non, non, mais je m'interroge encore. C'est-à-dire que... C'est une question qui ne me persécute pas. Ça remonte à 69. C'est pas récent.
Le jour où vous êtes retrouvé à la porte de l'usine, vous vouliez faire de votre vie quoi ?
Bah, me réétablir.
Recommencer.
Oui. D'ailleurs, j'ai fait une toute petite tentative dans les Cévennes, sur un chantier de l'EDF, mais qui a duré 15 jours, 3 semaines, par là. Parce que il y avait un problème de poste à Vincennes.
Le poste de prof de philo.
Oui, qui m'était attribué à condition que je remonte. Alors, comme de toute façon, c'était un chantier provisoire et pas très intéressant, où il n'y avait pas grand monde à mobiliser, je suis remonté.
Et après ? Vous avez fait le prof pendant longtemps ?
Oh bah oui, jusqu'à ma retraite.
Et aujourd'hui, la révolution ?
La révolution, je crois qu'il n'y a pas tellement de partisans, malheureusement. Enfin, malheureusement, j'en sais rien. Mais Staline disait, le pape, combien de divisions ? La révolution, combien de divisions ? Ce sont surtout des divisions au sens mathématique.
Division, illusion. Est-ce que vous pensez que la révolution était une illusion?
Oui, enfin bon, la révolution. Y avons-nous cru vraiment?
Et plus de 40 ans plus tard, Robert Linhart, vous pensez que cette expérience, cette traversée de la vie, ça vous a donné de la force?
Je pense, oui. Je pense. Enfin, faut le dire vite.
Ce texte, il est lu par des jeunes, encore aujourd'hui, et il est très frappant par le côté très contemporain qu'il recèle à l'intérieur, par les nombreuses histoires qui y sont restituées par vous, Robert Linhart, mais aussi par une expérience qui appartient maintenant à une histoire collective. Que sont-ils devenus, tous ces établis ?
Les établis, bon, y a de tout. Certains ont fait carrière, d'autres moins.
Vous n'avez pas fait carrière ?
Non, on ne peut pas dire.
À partir de quand vous avez décidé d'écrire ? Est-ce que c'était pendant que vous étiez dans l'usine ou c'était à la sortie de l'usine ?
Non, non, c'était bien après. C'était 10 ans après, parce que j'avais fait un premier livre sur Lénine, les paysans de Taylor. Je trouvais qu'il n'avait pas eu énormément d'impact et je pensais que le récit de mon expérience de l'usine pouvait en avoir plus.
Est-ce que vous accepteriez de lire les deux dernières pages de l'établi Robert Linhart ?
Oui. Elle rôde l'organisation du travail, en général anonyme, présente seulement dans ses effets. Mais parfois, elle prend un visage, une forme concrète, ponctuellement. Et la voici qui monte à l'attaque, en personne, en un point du front où on ne l'attendait pas. Du côté de Marcy, par exemple. Pourquoi de Marcy ? Allez savoir. Jamais de pépins sur son poste. Les portières retouchées, impeccables. Alors, on peut faire des hypothèses. Par exemple, une blouse blanche en balade d'inspection aura tiqué devant cet établi bricolé peu conventionnel. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Et, de fait, si on regarde travailler De Marcy juste 2 ou 3 minutes, il semble perdre du temps à tripatouiller son établi, à déplacer les écrous, à ajuster les cales. Évidemment, si on observe longtemps, on se rend compte que tout ça est bien au point et que le retoucheur tire un excellent parti de son engin. Mais les types des méthodes ne vont pas passer des heures sur chaque poste. Quelques coups d'œil et ils sont sûrs d'avoir compris. L'organisation scientifique du travail, ils connaissent. Oui, un type des méthodes a très bien pu passer par là et se dire que cet établi trop fragile faisait perdre du temps. Il faudrait remplacer cet invraisemblable établi bricolé par un établi « normal », entre guillemets. Fini le petit artisan pépère. 4, 5, 6 de Marcy sur des établis normalisés, faisant exactement les mêmes gestes, avec des retouches comptabilisées, classifiées, normées, réparties par un contrôleur. Plus d'improvisation, du précis à la seconde près. Commode pour le boni, efficace pour la production à grande échelle.
Et ce texte, vous le relisez de temps en temps ?
Oui. Oui, je trouve bien.
Votre fille Virginie le trouve très bien, mais est-ce que vous l'avez lu à vos petits-enfants ?
Je l'ai donné à ma petite fille. Je crois que ce n'est pas une très grande lectrice. Bon, mais ça viendra peut-être.
Merci beaucoup, Robert Linard.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better.
Merci Robert Linard d'avoir accepté pour L'Heure Bleue et pour France Inter cette adaptation de votre texte L'Établi, publié une première fois par les éditions de Minuit en 1978 et réédité de très nombreuses fois et réédité encore en ce moment et disponible en livre de poche aux éditions de Minuit. Merci à vous aussi Robert Linard d'avoir accepté de conclure cette semaine spéciale de L'Heure Bleue. Merci infiniment à Xavier Pestugia qui a réalisé cette émission, qui a été préparée par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Arthur Daniel, avec à la technique ce soir Jean-Louis Deloncle. Et puis après le journal, comme chaque vendredi soir, vous avez rendez-vous avec Didier Varro, Foule Sentimentale.